Bonjour, ici Hélène Féline qui vous présente deux livres de Myriam Anisimov, Jour nocturne aux éditions du Seuil, et de Julian Barnes, ou Barnes, Barnes, Quand tout est déjà arrivé aux éditions Mercure de France. Et je vous rappelle que les livres nous sont toujours aimablement prêtés par la librairie Sorams, que nous remercions. Alors, Jour nocturne de Myriam Anisimov, c'est pas un roman, ce n'est pas une autobiographie, mais ce sont des souvenirs. Hein. L'auteur est né en 1943 dans un camp de réfugiés en Suisse, ses parents étant juifs polonais qui ont quitté la Pologne avec, après la Shoah, bien sûr, ou pendant la Shoah. Et dès l'enfance, elle savait qu'elle quitterait. Les parents se sont installés à Lyon. Elle y a vécu, elle a fait ses études au lycée, mais elle savait qu'elle quitterait Lyon, cette ville, dit-elle, qui ne recevait pas les Israélites, pour vivre à Paris, qui lui offrirait la liberté. Elle avait envie de liberté, d'une vie intellectuelle, et surtout aussi la liberté et la fantaisie. Il lui fallait tourner la page des souvenirs familiaux et de la déportation qui collait tant au sommet familial. Il lui fallait tourner la page des souvenirs familiaux, j'ai dit. Elle ne voulait plus, elle voulait se dégager de tout ça, mais c'était difficile. On le comprend vite, Myriam Anisimov n'est pas du genre à hésiter longtemps. Elle quitte tout sans avertir personne. À 23 ou 24 ans, elle arrive à Paris, très jeune, pauvre et affamée, loin de sa petite maman, qu'elle aime et déteste à la fois, parce que sa mère n'est pas d'accord avec ses ambitions à elle, sa vie à elle. Sa mère voudrait qu'elle travaille, qu'elle ait des diplômes et qu'elle ait un métier comme il faut pour gagner de l'argent et être stable, avoir une vie stable. Alors, bien sûr, les deux, la mère et la fille, s'affrontent très, très, très souvent et de manière violente. Jour nocturne narre cette jeunesse de l'après-guerre construite à la diable. Pardon. Tantôt extrêmement joyeuse, tantôt désespérée, et il y a de quoi. La jeune femme est toujours en fuite, quittant un amant généreux pour un autre qui lui promet le succès dans la chanson et le spectacle. Elle habite des chambres de bonne minuscules, squatte chez une amie en voyage et se contente souvent d'un rouleau de printemps chez le Vietnamien du coin, pour seul repas de la journée. D'ailleurs, la faim revient souvent dans ce livre, qui n'est pas un journal, hein, je l'ai dit, ni un livre de mémoire. Tour à tour chanteuse de cabaret le temps d'un 45 tours, comédienne dans des troupes plus ou moins expérimentales, c'est-à-dire qu'elle ne gagnait pas sa vie, l'auteur rêve d'un autre destin, sans comprendre que l'écriture lui apportera ce qu'elle recherche. Elle croise des écrivains qui deviendront célèbres, comme Patrick Modiano, et des rockstars plongeant en continu le nez dans la drogue, mais elle ne va pas plus loin, elle n'y plonge pas. Elle est comme insatisfaite, comme si elle était un spectateur déçu de sa propre vie. Elle voudrait autre chose, mais elle ne sait pas quoi, et surtout, elle ne sait pas comment y arriver. Elle décrit avec précision ses moments d'illusion et de rage. Pas question de dormir ou de travailler. Il faut courir d'un expédient à l'autre, il faut trouver le gîte et le couvert, en promettant la lune sans rien tenir. Avec sa mère, sa petite maman, elles ne s'entendent pas, elles s'accrochent souvent, elles sont souvent en désaccord, mais malgré tout, sa mère lui envoie des chèques lorsque elle lui en demande qu'elle est au bout du rouleau. Elle ne la laisse pas tomber, elle l'aide. C'est une période de sa vie où elle est marginale, insolente aussi. Et depuis 1973, elle est devenue écrivain avec son premier livre, c'était « Comment va Rachel ?». Et depuis, elle continue d'écrire et elle a trouvé sa voie. Alors de Myriam Anisimov, « Jour moderne ». Le deuxième livre est tout complètement différent. « Quand tout est déjà arrivé » de Julian Barnes aux éditions Mercure de France. C'est un petit livre de... combien de pages ? 130. C'est un... Il a perdu sa femme... Pat Canava en 2008. Une perte qu'il a pris soin jusqu'alors de ne pas évoquer dans ses livres dont elle continue d'être l'unique dédicataire à qui ils sont tous adressés à sa femme. S'il consent pour la première fois, malgré sa réserve toute britannique, à décrire sa détresse et à désigner sa douleur, c'est seulement après avoir fait... en virtuose, un double détour, indirigeable, dirons-nous, et par le théâtre. Avec le premier, il prend de la hauteur, avec le second, il prend la lumière. Dans les deux cas, il fait voyager son chagrin dans le temps et l'espace, avant d'oser enfin regarder ce chagrin en face. Il porte moins le deuil de sa femme que celui du couple qu'il formait. Nous avons vécu ensemble pendant 30 ans. J'en avais 32 quand nous nous sommes rencontrés et 62 quand elle est morte. Le cœur de ma vie, la vie de mon cœur. Ensemble, ils ont travaillé, lui écrivait, elle était son agent. Ils ont voyagé, aimé la France à la folie, admiré les fulmars sur l'île écossaise de Barra et refusé d'y couper des iris. Elle prétendait que ce serait hâter la mort. Écouter la même musique, ressasser les mêmes souvenirs, les mêmes regrets. Leur osmose était si parfaite que depuis la disparition de Pat, Julien continue de compter avec elle, de lui parler, de lui demander des conseils sur ce qu'il fait et de lui déclarer sa flamme en lui exprimant sa souffrance. Car la douleur est une preuve d'amour, dit-il. S'il a décidé de ne pas mettre fin à ses jours, il avait choisi la méthode. C'est précisément parce qu'en se tuant, il l'a tué aussi, puisqu'il est le plus apte à se la rappeler. Il pousse son compagnonnage avec elle jusqu'à ne pas posséder que deux clés, celle de la porte de leur maison et celle du portail du cimetière où elle est enterrée. L'essentiel de sa vie se déroule désormais entre ces deux domiciles fixes. Fini les lointaines expéditions, les soirées mondaines et la fréquentation des importeurs. Julian Barnes a réduit le périmètre de leur amour. L'écrivain est devenu un artisan de la peine. La tâche de l'endeuillé, écrit-il joliment, est celle d'un travailleur indépendant. Que viennent donc faire dans ce livre très intime Félix Tournachon, alias Nadar, le photographe, le colonel Fred Burnaby ou l'actrice Sarah Bernhardt, dont la voix, dit-il, avait la clarté et le registre d'un instrument de musique pas encore inventé. Ils illustrent, souvent avec humour, l'idée selon laquelle les unions ont parfois la faculté de changer le monde. Ainsi Nadar, en mariant son art, la photographie et l'aéronautique, en plaçant son appareil photo dans un ballon captif, il a inventé la photo aérienne et bouleversé l'idée qu'en 1858, l'on se faisait de la Terre. Le même Nadar a laissé des portraits de Sarah Bernhardt qui s'amouracha un temps de Fred Bernaby, cavalier de la garde royale devenu aérostier, mais au prétexte qu'elle n'était pas faite pour le bonheur, elle le largua comme d'une montgolfière. La tragédienne du Français qui faisait cohabiter dans une cage un couple formé d'un singe et d'un perroquet épousa ensuite un diplomate grec, tandis que Bernaby s'en alla mourir dans la bataille d'Abou Keba, Cléa. Certains s'élèvent au moyen de l'art, d'autres de la religion, la plupart de l'amour. Mais lorsqu'on s'envole, on peut aussi s'écraser. Il y a peu d'atterrissage en douceur, conclut Julien. Tombé de très haut depuis que Pat est monté au ciel. Je vais vous lire deux passages de ce livre. La question du suicide se pose rapidement pour lui. Vous vous demandez dans quelle mesure dans ce tourbillon de regrets me manque-t-elle ? Où me manque la vie qu'on avait ensemble, ou ce qui, en elle, m'aidait à être davantage moi-même, ou la simple compagnie, ou l'amour, pas si simple, ou tout cela, ou un peu de chaque, en même temps. Vous vous demandez quel bonheur y a-t-il dans le souvenir du bonheur, et comment, de toute façon, cela pourrait-il fonctionner, étant donné que ce bonheur a toujours été quelque chose de partagé. Bonheur solitaire, cela semble être une contradiction dans les termes, un bidule improbable qui ne décollera jamais du sol. Et plus loin, la souffrance est exactement proportionnelle à la valeur de ce que l'on a perdu. Alors, dans un sens, on chérit la douleur, je pense. La seconde partie de cette phrase était ce contre quoi je butais. Cela me paraissait inutilement masochiste. Maintenant, je sais que cela contient quelques vérités. Et si la douleur n'est pas précisément chérie, elle ne semble plus vaine. La douleur montre qu'on n'a pas oublié. La douleur relève le goût du souvenir. La douleur est une preuve d'amour. Si ça n'avait pas eu d'importance, peu importerait. Mais il y a de nombreux pièges et dangers dans le chagrin, et le temps ne les diminue pas. Apitoiement sur soi, tendance à l'isolement, mépris du monde, sentiment égotiste que son malheur est exceptionnel, autant d'aspects de la vanité. Voyez combien je souffre et combien les autres sont impuissants à comprendre. Cela ne prouve-t-il pas combien je l'aimais ? Peut-être, peut-être pas. J'ai vu des gens exhiber leur chagrin lors d'enterrements, et il n'est point de spectacle plus vain. Le deuil aussi peut devenir compétitif. Voyez combien je l'aimais, et avec ses larmes je le prouve, et je remporte le trophée. Il y a la tentation de penser, sinon de dire, « Je suis tombé d'une plus grande hauteur que vous. Regardez mes organes rompus. Les affligés exigent de la compassion. » Mais, contrariés par tout défi à leur primauté, sous-estiment la douleur que d'autres éprouvent en raison du même deuil. C'est un livre à lire, c'est un bijou de sincérité, de sentiments vraiment. On compatit. Et à la plupart des écrivains français, la mort de la bien-aimée aurait inspiré un tombeau et son cortège d'affligés en noir. Au romancier anglais, elle a inspiré au contraire un vol en ballon tout en légèreté et en grâce, où l'on boit du champagne et déguste du foie gras à la hauteur des nuages, où l'on pleure à chaudes larmes en laissant à croire que c'est à cause du vent, d'un insecte ou d'une escarbouille. Escarbille, pardon. Et c'est ainsi que Barne est grand. Alors, de Julien Barne, quand tout est déjà arrivé au Mercure de France. Voilà, c'est terminé. Je vous dis au revoir et à bientôt peut-être.